France Musique.
Je vois des drapeaux rouges brandis, des drapeaux noirs. Et...
Musicus Politicus.
C'est extraordinaire et bien sûr inhabituel de voir tous ces garçons casqués de casques de moto avec des mouchoirs sur le nez qui montent une espèce de piqué en faisant la chaîne devant la flamme.
Musicus Politicus, parce que toute musique est politique.
À toutes ces rafales de suggestions déclenchées vers la foule secrète des esprits. Bref, à la radio, fallait-il une maison ?
Bonjour, bienvenue dans Musicus Politicus. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un grand compositeur contemporain, Gyurgy Ligeti, d'un totalitarisme à l'autre. Mort le 13 juin 2006 à Vienne, Gyurgy Ligeti est considéré comme un des grands compositeurs de la deuxième moitié du XXe siècle. Il a collaboré avec Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen ou Luciano Berio. L'une de ses pièces, Lux Aeterna, figure en outre dans le film de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace. Mais Ligeti a surtout été marqué au fer rouge par une enfance sous la botte nazie et une jeunesse sous le joug du stalinisme. Ligeti, d'un totalitarisme à l'autre.
Lich!
What did you say?
Lich!
Qu'est-il arrivé à Ligeti? Ligeti naît en Roumanie, dans une famille juive de langue hongroise, le 28 mai 1923. Alors déjà, c'est compliqué. La Roumanie, une famille juive, mais de langue hongroise. Comme il le dit lui-même dans un entretien accordé à Carole Beffa, « Mes parents s'étaient installés à Dijkse-Sint-Marten pendant la Première Guerre mondiale et c'est là que je suis né et que j'ai passé les premières années de ma vie au cœur de la Transylvanie. Mais quand j'ai eu 6 ans, nous avons déménagé à Kolozsvár. » Alors Carole Beffa lui demande « Vos parents étaient-ils eux-mêmes musiciens ?»« Non, mais il y avait un violoniste célèbre dans la famille de mon père, Léopold Auer. » C'était un élève de Joachim. Il a quitté la Hongrie pour la Russie et a passé l'essentiel de sa vie comme musicien de cour auprès du tsar à Saint-Pétersbourg. Tchaïkovski lui avait dédié son concerto pour violon. Mais Auer lui ayant dit que ce n'était pas de la bonne musique et ayant refusé la dédicace, Tchaïkovski furieux l'a dédié à un autre. Mon père avait fait un peu de violon dans sa jeunesse, mais il a vite abandonné. Personne dans la famille ne jouait d'un instrument. D'ailleurs, nous n'avions pas d'instrument de musique à la maison. Nous n'avions qu'un vieux gramophone et je passais mon temps à écouter des disques. J'avais un jeu. Sur le trajet de l'école qui durait un peu moins de 20 minutes à pied, j'imaginais de la musique. Quelque chose comme une symphonie de Beethoven ou de Schumann. Enfin bref, ce que j'entendais à la radio. Très progressivement, je suis passé de la capacité non seulement à imaginer la musique, mais à la coucher sur le papier. Plus tard, quand enfin j'ai pu apprendre à jouer du piano, j'ai tout de suite composé. Je me rappelle, je jouais une valse extraite des pièces lyriques de Grieg, et du coup j'en ai écrit une qui lui ressemblait.
Thank you.
Une pièce de Ligeti, San Francisco Polyphonie, c'était l'Orchestre Philharmonique de Berlin sous la direction de Jonathan Nott, et on entend la voix de Ligeti.
J'ai développé une polyphonie, c'est la micropolyphonie, où vous avez très bien remarqué que une voix détruit l'autre, c'est comme une solution sursaturée. Il y a tellement grande quantité de voix qu'on n'entend pas la polyphonie, on entend quelque chose qui est nouveau, on entend une certaine modification, changement de timbre, de texture, de formation intérieure. C'est ça que j'ai développé, c'est quelque chose de personnel qui n'est pas exactement la tradition sérielle ou ce que les deux grands compositeurs Boulez et Stockhausen, mais je dois dire ouvertement que je sens toujours beaucoup plus proche à Boulez et à Stockhausen que à Xenakis. Oui.
Alors la carrière scolaire de Ligeti va être rapidement modifiée pour une raison très simple. Au départ, son père aimerait lui faire faire une carrière scientifique, mais en réalité, il ne peut entrer à l'université à cause des lois antisémites et il s'inscrit donc au conservatoire de musique de Cluj. Alors Cluj est situé en Transylvanie, une région qui est alors sous domination hongroise. Or, en 1941, la Hongrie, dirigée par le régent Horthy, entre en guerre aux côtés de l'Allemagne nazie. Le régime édicte aussitôt des lois antisémites et Ligeti est même forcé de quitter le conservatoire en 1943. Quant à sa famille, elle est littéralement anéantie, voilà ce que dit Ligeti lui-même. « Mes parents, mon frère et plusieurs membres de ma famille ont été déportés. » Mon père et mon frère sont morts à Bergen-Belsen et Mauthausen. Je n'accepterai jamais le fait que mon frère ait pu être assassiné à l'âge de 17 ans. Il avait 5 ans de moins que moi. Ma haine du régime nazi et du régime hongrois qui lui était allié est restée intacte. Je ne pourrai jamais oublier. Au contraire, avec le temps, ce genre d'émotion n'a fait que croître. J'ai moi-même été rattrapé par la guerre, mais assez tard, en janvier 1944, mobilisé comme juif dans un bataillon hongrois de travaux forcés. C'était pénible, mais moins que dans un camp de concentration. Nous étions considérés comme des ennemis. Nous ne pouvions pas porter l'uniforme. À la place, nous portions le brassard jaune des juifs. Et évidemment, nous n'avions pas d'armes. Les autres minorités douteuses, comme les Roumains, les Serbes et les Ukrainiens, faisaient également partie des bataillons de travaux forcés. Mais le pire statut était réservé aux juifs, celui de prisonniers de guerre. Les travaux que l'on nous réservait étaient épuisants et dangereux. Dans mon unité, par exemple, transportait des explosifs jusqu'au front. Par chance, j'ai survécu.
En Hongrie, la principale organisation juive a décidé de boycotter les commémorations de l'Holocauste. Elle reproche au gouvernement d'occulter la responsabilité du pays dans la déportation des juifs pendant l'occupation nazie. Un demi-million d'entre eux moururent dans des camps entre mars 1944 et le printemps 45. Les juifs de Budapest n'oublient pas le rôle joué par les Hongrois à cette période. Ma mère et mon père n'ont pas été mis dans des wagons par les Allemands, explique le responsable de l'organisation Magie. Ce sont des Hongrois qui les ont remis aux Allemands. Tout le monde doit savoir que ça s'est passé de cette façon.
Nous venons d'entendre un extrait du dialogue du vent et de la mer, extrait de La Mer de Claude Debussy. C'était l'orchestre Les Siècles sous la direction de François-Xavier Roth. Pourquoi ? Parce que Claude Debussy est une des inspirations majeures de Gheorghi Ligeti.
Christophe Bourseiller, Musicus Politicus, France Musique.
Ligeti, pendant la guerre, c'est un jeune homme qui étudie la musique dans un conservatoire. Les lois antisémites l'empêchent d'étudier. Il se trouve incorporé de force dans un bataillon de travaux forcés hongrois, tandis que sa famille est anéantie dans les camps de concentration. Et que dit Ligeti ? Au moment où j'étais incorporé dans ce bataillon de travaux forcés, le gouvernement hongrois essayait de traiter en douce avec les Anglais. Les Allemands l'ont su. Ils sont entrés en Hongrie. Ils ont occupé un pays qui leur était allié, comme quelques décennies plus tard, les Russes l'ont fait pour la Hongrie et la Tchécoslovaquie. Ils ont mis en place un gouvernement fantoche le 19 mars 1944. Cela a coïncidé avec l'élimination physique des Juifs. Mais dans ce gouvernement hongrois pro-nazi, il y avait quelqu'un au ministère de la Défense qui voulait protéger les Juifs servant dans l'armée. C'est grâce à lui que quelques Juifs appelés pendant l'hiver 1943-1944 ont été sauvés. Ceux qui les ont précédés ou leur ont succédé ont tous péri. J'ai donc eu beaucoup de chance d'en réchapper, même si je ne m'en suis rendu compte que plus tard. En octobre 1944, j'ai déserté mon bataillon pendant un combat sur le front. Et j'ai eu la chance de ne pas me faire prendre par l'armée russe. Je suis retourné à pied en Transylvanie sous occupation soviétique. Ainsi, Ligeti, en 1944, se croit enfin libre. Les Russes ne sont-ils pas en train de chasser les nazis ?
Thank you.
j'ai eu une très intéressante discussion avec Servansky dans un petit café à Budapest sur qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue à suivre Bartók, comme ça des choses de style très importantes. Et après ça, toute la nuit, j'étais très tourmenté après la longue discussion. Tout seul, une promenade dans le quartier qui était encore ruine de la guerre. Et j'ai imaginé tout d'un coup, ça a venu comme une révélation, une musique qui est totalement statique, qui n'a aucune mélodie, aucun rythme. C'est une sonorité, c'est un accord qui reste et qui change un peu le timbre, qui change la tessiture. C'était un peu quelque chose auditif mais aussi visuel. J'ai pas connu l'art abstrait, vous savez, Mondrian, oui, mais l'art abstrait de ce temple-là qui était Pollock ou Foutrier, ou ça, aucune idée de ça. Mais cette imagination a eu quelque chose à faire avec ça que je sais ultérieurement. Mais c'était déjà l'année 50. Mais de 50 jusqu'à 56, j'ai toujours cherché comment je peux noter ça. Mais j'ai pas réussi parce que j'étais tellement dans la tradition de Bartók, tradition d'utiliser, par exemple, les mesures, que j'ai aucune idée comment je note ça. Alors j'ai développé des nouvelles pièces, qui est Musica Ricercata, qui est le premier quator, mais très très proche de Bartók. Et en même temps, j'ai eu déjà très lentement le développement de cette vision de musique tout à fait statique.
Nous venons d'entendre Luxa Eterna, une pièce bien sûr de Ligeti, interprétée par la Capella Amsterdam sous la direction de Daniel Royce. Cette œuvre a eu un grand succès, un grand retentissement, puisqu'elle a été utilisée par Stanley Kubrick dans son film 2001, l'Odyssée de l'espace. Ligeti raconte son odyssée incroyable, odyssée qui se poursuit à la fin de la guerre. L'armée soviétique avait conquis la moitié de l'Europe, mais nous ne savions pratiquement rien de l'Union soviétique. Pour nous, c'était un pays éloigné, un peu abstrait. Les premières années jusqu'au début de 1948, le régime ne semblait pas dictatorial. Il y avait un gouvernement démocratique, issu d'élections libres. Nous ne nous doutions pas que la police secrète était déjà là, aux ordres de la dictature communiste en train de se mettre en place. Vous ne pouvez pas imaginer quel fut le sentiment de dépression et de désillusion que nous avons ressenti lorsque nous nous sommes rendus compte que la dictature stalinienne s'abattait sur le pays. 3 ans de liberté illusoire. Après le totalitarisme nazi, le totalitarisme stalinien. Pour moi, Hitler et Staline resteront comme les deux gangsters du XXe siècle. La seule différence, c'est que l'obéissance aux lois chères aux Allemands s'est faite progressivement sous Hitler. La Hongrie n'était pas complètement nazie, elle l'est devenue peu à peu. Tandis que sous l'occupation soviétique, le passage d'un régime démocratique à une dictature intégrale a été extrêmement rapide. À la fin de l'été 1948, il a suffi de quelques mois. Le commerce et l'industrie étaient anéantis, l'État contrôlait tout, la bureaucratisation était totale.
Pasteur courageux, martyr du régime communiste hongrois, mort le 4 mars 1951 des suites des tortures subies au camp d'internement de Kistarska. Monseigneur Soltán Lajos Mezleni, évêque auxiliaire d'Estergom de 1937 à 1950, a sacrifié sa vie pour l'Église et pour ses fidèles pendant les persécutions de la dictature. Il a été élevé à l'honneur des autels le 31 octobre dernier en la basilique d'Estergom au cours d'une messe présidée par le cardinal Péter Erdő, primat de Hongrie. Le bienheureux Soltán Mezleni nous invite à être fidèles à l'évangile de la vie et de la vérité. Tel est son message aujourd'hui, vivre dans la communion, dans la liberté, dans la charité et construire, promouvoir et témoigner une civilisation de l'amour, de la vie et de la fraternité universelle, écrit dans son message Mgr Angelo Amato, préfet de la Congrégation pour les causes des saints, légat du pape à la cérémonie pendant laquelle il a lu la formule de béatification.
C'était le dialogo, extrait de la sonate pour violoncelle de Ligeti. Luc de Dreuil l'interprétait au violoncelle. Alors le plus incroyable, c'est que dans le contexte de chaos généralisé que nous venons de dépeindre, Ligeti veut encore faire de la musique. Et c'est insensé de le dire, mais il y parvient. En 1951, il compose une première pièce, une pièce pour orgue, hommage à Frescobaldi. Et comme il le dit lui-même, c'est une pièce très monotone. Il a voulu faire une œuvre monotone. Alors il dit « Je l'ai voulu comme la métaphore de l'épouvantable dictature de Staline et de Rakosi ». Alors quel contact a-t-il alors avec la musique occidentale en ce début des années 50? Il répond « Sous les communistes avant l'insurrection, les radios occidentales étaient brouillées. Certes, on pouvait écouter les radios allemandes, américaines, britanniques, françaises, mais on ne comprenait rien. La musique aussi était brouillée. J'en avais une impression assez vague. Je savais que tous les jeudis à 11h, la Westdeutsche Rundfunk de Cologne émettait une heure de musique. Et j'ai pu glaner, ça et là, quelques informations sur la musique électronique. Mais je ne peux pas dire que je l'entendais vraiment. Je me souviens du 7 novembre 1956. Ce jour-là, j'ai pu entendre clairement « Contrapunkte » de Stockhausen, parce qu'alors, c'est-à-dire pendant la Révolution et quelque temps après, le brouillage des radios a cessé. Sinon, partitions, livres, disques en provenance de l'Ouest, tous ont été interdits jusqu'en 1955. C'est par des voies détournées que ma femme a pu me procurer « Philosophie de la nouvelle musique » de Théodore Adorno. Et nous n'étions pas seulement, poursuit Ligeti, isolés de l'Ouest, mais nous étions isolés entre nous, entre pays du bloc de l'Est. Le résultat à Budapest a été l'émigration intérieure et une culture de la chambre close. Imaginez-vous que la très belle collection des impressionnistes français et hongrois du musée des Beaux-Arts de Budapest a été décrochée. La vie littéraire subissait les mêmes absurdités. Si un livre avait le malheur de déplaire au régime, il disparaissait des bibliothèques et des librairies. Ce fut le cas de Don Quichotte et de Winnie l'ourson. La situation musicale était également grotesque. Bartok, mort en 1945... avait beau être considéré comme le plus grand compositeur national et comme un héros antifasciste, la plupart de ses œuvres n'échappaient pas à la censure. Étaient joués le troisième concerto pour piano, le concerto pour orchestre et ses arrangements de chansons populaires, c'est-à-dire des pièces conciliantes, car non dissonantes.
Je suis quelqu'un qui, même que je ne fais pas la musique qui est nommée expérimentale, je fais toujours des expériments, ça veut dire que je change toujours. Et de ce point de vue, mon grand idéal est Stravinsky, qui a vraiment fait des énormes, si vous pensez, du néoclassicisme, il se jetait dans le monde de Webern par l'influence de Robert Kraft. Mais il est quelque chose typiquement Stravinsky, dès l'Oiseau de feu jusqu'au Requiem Canticles. Bien, c'est trop grand modèle pour moi, mais je appartiens un peu à ce genre, aussi comme Picasso, qui a beaucoup changé son style, mais il a resté toujours lui-même. Moi, j'ai beaucoup fois changé ma technique, mon style, mes conceptions de base, mais il y a quelque chose, j'espère, qu'il a resté et qui n'est pas changé. J'espère, je ne peux pas juger ça. Je suis quelqu'un qui n'est pas très, même que je vous dis que tout jeune, j'étais très socialiste, comme ça. Mais je suis quelqu'un antidogmatique. Dans l'art, et on n'a pas de théories qu'on doit prouver, des théories comme la tonalité, ou le sérialisme, ou la modalité, ou l'accordage Slendro, ou Pelog, Javanet, et tout ça. Ce sont des dessins culturels, des patterns culturels, qu'on doit accepter. Il existe, il n'est pas la question qui est d'être vrai ou pas vrai. Comme ça, moi, que je suis très rationnel, à la terre, comme ça, très paysan, si vous voulez, dans l'art, il y a toujours une question de croyance, et je ne suis pas croyant, assez croyant, d'être partisan d'une seule clique, d'un seul courant. À cause de ça, toujours la critique de moi-même.
Encore une œuvre de Gheorghi Ligeti, Atmosphère, c'était l'orchestre symphonique de la radio de Baden-Baden et Fribourg, sous la direction d'Ernest Bourg. Et justement, comment l'œuvre de Ligeti est-elle accueillie dans la Hongrie stalinienne? Alors c'est assez complexe, Ligeti en témoigne. Certaines pièces étaient coupables d'insoumission pubertaire, d'autres de cosmopolitisme ennemi du peuple, comme la sixième de mes bagatelles pour instruments avant. Et là, Ligeti, c'est assez drôle d'ailleurs, raconte une grande frayeur qu'il a éprouvée. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Josef Gatt, un excellent professeur de piano et chef de chœur, m'avait demandé en 1950 de faire pour sa chorale un arrangement d'une chanson populaire. Quelques semaines plus tard, j'étais convoqué par la Sûreté d'État. J'ai dû me présenter à son siège. Là, j'ai été conduit dans une salle. S'y trouvaient déjà Josef Gatt et une cinquantaine d'hommes et de femmes portant l'uniforme des gardes-frontières armés de la Sûreté. Et ce sont eux qui chantèrent mon cœur.
Attention, attention. This is Free Budapest. Prime Minister Imre Nagy has just been on the air and said the following. This is Imre Nagy, Chairman of the Council of Ministers of the Hungarian People's Republic speaking. In the early hours of the morning, Soviet troops have started an attack against the Hungarian capital with the apparent purpose of overthrowing the local democratic government of the country. Our troops are engaged in battle with the Soviet forces.
Ligeti quitte finalement la Hongrie en décembre 1956, quelques mois après la terrible insurrection d'octobre 1956, la fameuse insurrection hongroise contre la férule russe. Alors, il va partir de Hongrie dans des conditions incroyables, dignes d'un film d'aventure. Alors voilà ce qu'il raconte. Pendant la Révolution même, on pouvait partir de Hongrie assez facilement, car les frontières étaient momentanément ouvertes. Mais nous pensions que, dorénavant, tout irait bien, comme à l'horreur les Polonais et les Tchèques. Aussi, je suis parti trop tard, en décembre 1956, alors que les contrôles soviétiques étaient déjà plus stricts. Il y avait, à ce moment, suffisamment de militaires russes pour encercler Budapest. On a quand même réussi à acheminer des trains pour ceux qui voulaient gagner la frontière autrichienne. Avec ma femme, nous avons pris le train pour une ville située à l'ouest de la Hongrie, à peu près à 60 km de la frontière. Mais le convoi s'est retrouvé entouré de Russes. Ils n'étaient pas assez nombreux, heureusement, pour le cerner entièrement. En quelques secondes, ils ont raflé tous ceux qui se trouvaient dans la première moitié du train. Nous, qui étions dans la seconde, très vite, nous avons abandonné le train pour trouver refuge dans le bureau de poste de la ville voisine. Le lendemain, un facteur nous a mis dans un train, formé seulement d'une locomotive et d'un fourgon postal, avec une douzaine de personnes cachées sous les sacs postaux. C'était très risqué. Il y avait parmi nous un enfant de 3 ans à qui on a donné des pilules pour dormir. Ensuite, nous sommes descendus du train, à 10 km de la frontière, non pas à une gare, mais juste à côté. Et c'était déjà en zone interdite avec les Russes qui patrouillaient. La nuit suivante, quelqu'un nous a indiqué la frontière. Les Russes tiraient des fusées pour éclairer la zone. Nous avons su que nous étions à la frontière quand nous sommes tombés sur le terrain boueux qui se trouvait là, où les mines avaient été retirées peu de temps auparavant. Pendant la Révolution, l'Autriche, refusant de commercer avec la Hongrie tant que la frontière restait minée, les mines avaient été déterrées et enlevées. Nous avons franchi cette frontière à pied, en toute clandestinité. J'étais désormais un réfugié, libre, mais sans ressources. C'est le début d'une nouvelle aventure, une aventure cette fois strictement musicale, qui s'achève le 12 juin 2006, quand Gheorghi Ligeti décède à Vienne.
Like big good fuss, get big fuss.
Pour terminer Musicus Politicus consacré à Gheorghe Ligeti, c'était Deux rêves et une petite chauve-souris d'après Lewis Carroll, une pièce bien sûr de Ligeti, extrait de ses madrigaux non-sens, et c'était l'ensemble des Kingsingers. Ainsi s'achève donc notre émission consacrée à Ligeti, Ligeti d'un totalitarisme à l'autre, et je dois beaucoup pour la préparation de cette émission à la lecture du livre de Carole Beffa, Ligeti, récemment sorti chez Fayard. Musicus Politicus a été réalisé par Françoise Cordet avec Emmanuel Dupuis et l'émission a été bien entendu préparée par Dorothée Gaulle. La semaine prochaine, changement d'époque, nous partons à la rencontre de la guerre de 1870. Vous savez qu'il y a de nombreuses expositions en ce moment autour du Second Empire et nous évoquerons pour notre part César Franck, un compositeur révulsé par la guerre de 1870. Je vous rappelle qu'il existe une page Facebook Musicus Politicus. N'hésitez pas à aller dessus, vous y trouverez nos programmes, des commentaires et n'hésitez pas à dire bien sûr que vous l'aimez. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur Musicus Politicus, il faut bien sûr aller sur le site de Musicus Politicus sur France Musique.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.